court sommeil sans rêve. Elle entendit pourtant, comme un tumulte, un galop grandissant de cauchemar. Puis, quand elle eut rouvert les yeux, elle ne comprit pas d'abord. Où était-elle? Pourquoi ce poids énorme qui écrasait son cœur? La réalité lui revint dans une épouvante. Elle revit Pascal, elle entendit les cris de Martine à côté, et elle se précipita, angoissée, pour savoir. Mais, dès le seuil, Clotilde saisit toute la scène d'une netteté sauvage. L'armoire, grande ouverte, est complètement vide. Martine affolée par la peur du feu, sa grand-mère Félicité radieuse, poussant du pied dans les flammes les derniers fragments des dossiers. Une fumée, une suie volante emplissait la salle, où le grondement de l'incendie mettait comme un râle de meurtre ce galop dévastateur qu'elle venait d'entendre du fond de son sommeil. Et le cri qui lui jaillit des lèvres fut celui que Pascal avait poussé lui-même la nuit d'orage, lorsqu'il l'avait surprise en train de voler les papiers. « Voleuse ! Assassine !» Tout de suite, elle s'était précipitée vers la cheminée, et malgré le ronflement terrible, malgré les morceaux de suie rouge qui tombaient, au risque de s'incendier les cheveux et de se brûler les mains, elle saisit à poignée les feuilles non consumées encore. Elle les éteignit vaillamment en les serrant contre elle. Mais c'était bien peu de choses, à peine des débris, pas une page complète, pas même des miettes du travail colossal, de l'œuvre patiente et énorme de toute une vie que le feu venait de détruire là en 2 heures. Et sa colère grandissait, un élan de furieuse indignation. « Vous êtes des voleuses, des assassines! C'est un meurtre abominable que vous venez de commettre! Vous avez profané la mort, vous avez tué la pensée, tué le génie !» La vieille Madame Rougon ne reculait pas. Elle s'était avancée au contraire, sans remords, la tête haute, défendant l'arrêt de destruction rendu par elle et exécuté. « C'est à moi que tu parles, à ta grand-mère ? J'ai fait ce que j'ai dû faire, ce que tu voulais faire avec nous autrefois. Autrefois, vous m'aviez rendue folle. Mais j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai compris. Et puis, c'était un héritage sacré, légué à mon courage, la dernière pensée d'un mort, ce qui restait d'un grand cerveau et que je devais imposer à tous. Oui, tu es ma grand-mère, et c'est comme si tu venais de brûler ton fils. Brûler Pascal, parce que j'ai brûlé ses papiers ? Cria Félicité. J'aurais brûlé la ville pour sauver la gloire de notre famille. Elle s'avançait toujours, combattante, victorieuse. Et Clotilde, qui avait posé sur la table les fragments noircis, sauvés par elle, les défendait de son corps, dans la crainte qu'elle ne les rejetât aux flammes. Elle les dédaignait, elle ne s'inquiétait seulement pas du feu de cheminée, qui heureusement s'épuisait de lui-même. Pendant que Martine, avec la pelle, étouffait la suie et les dernières flambées des cendres brûlantes. « Tu sais bien pourtant, » continua la vieille femme, dont la petite taille semblait grandir, « que je n'ai eu qu'une ambition, qu'une passion, la fortune et la royauté des nôtres. J'ai combattu, j'ai veillé toute ma vie, je n'ai vécu si longtemps que pour écarter les vilaines histoires et laisser de nous une légende glorieuse. » Oui, jamais je n'ai désespéré, jamais je n'ai désarmé, prête à profiter des moindres circonstances. Et tout ce que j'ai voulu, je l'ai fait, parce que j'ai su attendre. » D'un geste large, elle montra l'armoire vide, la cheminée où se mouraient des étincelles. « Maintenant, c'est fini, notre gloire est sauve, ces abominables papiers ne nous accuseront plus, et je ne laisserai derrière moi aucune menace. » Les Rougon triomphent. Éperdue, Clotilde levait le bras, comme pour la chasser. Mais elle sortit d'elle-même. Elle descendit à la cuisine, lavait ses mains noires et rattachait ses cheveux. La servante allait la suivre, lorsque, en se retournant, elle vit le geste de sa jeune maîtresse. Elle revint. « Oh, moi, mademoiselle, je partirai après-demain, lorsque monsieur sera au cimetière. » Il y eut un silence. « Mais je ne vous renvoie pas, Martine. Je sais bien que vous n'êtes pas la plus coupable. Voici 30 ans que vous vivez dans cette maison. Restez, restez avec moi. » La vieille fille hocha sa tête grise, toute pâle et comme usée. « Non, j'ai servi monsieur. Je ne servirai personne après monsieur. » « Mais moi !» Elle leva les yeux, regarda la jeune femme en face, cette fillette aimée qu'elle avait vue grandir. « Vous, non !» Alors Clotilde eut un embarras, voulut lui parler de l'enfant qu'elle portait, de cet enfant de son maître, qu'elle consentirait à servir peut-être. Et elle fut devinée. Martine se rappela la conversation qu'elle avait surprise, regarda ce ventre de femme féconde où la grossesse ne s'indiquait pas encore. Un instant, elle parut réfléchir, puis nettement, « L'enfant, n'est-ce pas ?»« Non. » Et elle acheva de donner son compte, réglant l'affaire en fille pratique qui savait le prix de l'argent. « Puisque j'ai de quoi, je vais aller manger tranquillement mes rentes quelque part. Vous, mademoiselle, je puis vous quitter, car vous n'êtes pas pauvre. Monsieur Ramon vous expliquera demain comment on a sauvé 4 000 francs de rente chez le notaire. Voici, en attendant, la clé du secrétaire où vous retrouverez les 5 000 francs que monsieur y a laissés. Oh, je sais bien que nous n'aurons pas de difficultés ensemble. Monsieur ne me payait plus depuis 3 mois, j'ai des papiers de lui qui en témoignent. En outre, dans ces temps derniers, j'ai avancé à peu près 200 francs de ma poche, sans qu'il sût d'où l'argent venait. Tout cela est écrit. Je suis tranquille. Mademoiselle ne me fera pas tort d'un centime. Après-demain, quand monsieur ne sera plus là, je partirai. » À son tour, elle descendit à la cuisine. Et Clotilde, malgré la dévotion aveugle de cette fille qui lui avait fait prêter les mains à un crime, se sentit affreusement triste de cet abandon. Pourtant, comme elle ramassait les débris des dossiers avant de retourner dans la chambre, elle eut une joie, celle de reconnaître tout d'un coup sur la table l'arbre généalogique, étalé tranquillement et que les deux femmes n'y avaient pas aperçu. C'était la seule épave entière, une relique sainte. Elle le prit, alla l'enfermer dans la commode de la chambre avec les fragments à demi consumés. Mais quand elle se retrouva dans cette chambre auguste, une grande émotion l'envahit. Quel calme souverain !